Bah, t'es toute seule?
Ouais. Alors d'ailleurs, à ce propos.
Oui, alors tes problèmes sentimentaux plus tard, Juliette. Hein,
non, alors non, c'est pas ça. C'est.
Non, mais plus tard. Parce que là, tu vois, je viens de réécouter l'émission d'hier et je crois qu'on tient un truc passionnant. Non, mais Alex et Guy, on va être sur le cul, hein, je te le dis.
Ouais, alors là, vraiment, j'en doute pas.
Mais quand je te dis passionnant, je pèse mes mots. Non, mais écoute ça. Hier, on recevait comme invité Patrick Chamoiseau, grand écrivain des Antilles.
Ouais.
Chantre de la Martinique.
Ah oui.
L'auteur d'une langue qui a établi un pont littéraire entre le français et le créole.
Ah oui. Épatant.
Et aujourd'hui, Yannick Lins, écrivain des Antilles également. Oui, mais d'autres Antilles.
Ah
Haïti,
oui.
Tu vois, c'est génial. Ah, et là, Alex va enfin comprendre tout le potentiel intellectuel de par Jupiter.
Oui,
sûr.
Alors il va bien comprendre Alex, c'est sûr, sauf que...
Ah, et Guillaume, je veux lui montrer comment on mène efficacement un combat pour la mise en lumière des marges.
Tu vois, ah oui, bah il va être bien épaté, Guillaume, c'est sûr.
Sauf que je me tue à leur dire, un viséo, le rire, oui, mais le fond aussi. Moi, j'ai hâte de voir leur tête, audio guignolo.
Ah oui, alors justement, à ce propos, il faut que je te dise un truc, Charline.
Oui, je sais, Juliette, tu penses qu'ils sont pas prêts, c'est trop subtil pour eux. D'ailleurs, ils sont en retard, là, non?
Ouais, alors... Alors, effectivement.
Oh, c'est pas grave, parce que moi j'ai un peu d'avance dans le fond.
Ouais, non, mais la fin, c'est plus que du retard en fait. Ouais. C'est plus comme un retard qui dure, parce qu'en fait, c'est une absence.
Quoi ?
Ouais, je sais ! Crie pas, tu me fais peur. Ils sont absents tous les deux pour toute la journée. Peut-être c'est mieux que je sorte pour t'essayer de digérer.
Mais où ils sont ?
Ils jouent leur spectacle ?
Quoi ?
Ouais, tu sais, les spectacles, c'est des trucs où ils parlent tout seuls en faisant des blagues pour des gens dans le noir qui rigolent.
Non, je vois pas. Non, vraiment. Génial, hein, vive les troubadours. Ah, non, mais pendant que maman se fend le cul en quatre, regardez la toux, là, honorer le service public. Vas-y, que je me colle la vaisselle, le repassage, la poussière. Maman, elle est fatiguée, tu comprends, Juliette ? Maman est fatiguée, voilà. Je me sens comme une mère célibataire de 4 enfants délinquants, juvéniles. Voilà comment je me sens. Voilà.
Écoute, Charline, tu sais quoi ? J'ai une très bonne recette de camomille à la vodka. Et si je te faisais une gourde ?
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up émission, là où la jeune pousse de la blague s'épanouit grâce à la photosynthèse de l'actualité. Et si on prenait des nouvelles d'Haïti ? Celles qui nous parviennent sont sans cesse les mêmes. Dérive de l'humanitaire, épidémie, corruption, cataclysme. Mais que dirait Haïti si elle s'adressait directement à nous ?
J'entends plus rien de personne, sauf de vous. Mais je voudrais pas que vous engagez votre parole sur un mouvement de pitié.
Il est temps de déchiantiser la critique littéraire. Un magazine en ligne s'y emploie depuis un an. Il s'appelle Ernest et aborde les livres sous l'aspect du plaisir. Alors pour déchiantiser, on commence par qui ?
À commencer par Ginette Marchandise pour Aristote ou L'émergence du rire. Un très beau livre, rare, dérangeant et pas si drôle que ça.
Pourquoi les premiers de la classe sont-ils les éternelles têtes de Turc ? Le premier de la classe est-il forcément le chouchou ? Tiens, ça nous manquait, hein, un article sur cette question, ça nous manquait.
Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente.
Mais enfin, c'est quand même. Alors, en ce jour où mes deux comparses m'abandonnent, elle est heureusement le quatrième mousquetaire, c'est Juliette Arnoux.
Bonjour Charline, bonjour tout le monde. Une bien belle équipe aujourd'hui. Et pour attaquer, une fois n'est pas coutume Charline, je vais célébrer la force. En effet, nous aurons d'abord celui qui manie de manière experte l'art d'introduire de force de la chanson là où il n'y avait pas forcément la place. J'ai nommé Thomas VDB.
Bonjour les amis, bonjour à tous. Et de quoi vais-je parler, allez-vous me demander ? Eh bien, je vais tout simplement vous parler de la nouvelle statue du musée Grévin. On va se régaler, on va bien se régaler aujourd'hui.
Ensuite, il y a une devise célèbre d'ivrogne qui dit « À moi les réverbères, la terre m'abandonne ». Alors pour les autres, ceux qui ne sont pas ivrognes, quelqu'un nous enseignera comment s'en remettre aux morts quand les vivants font nimp. J'ai nommé Christine Gonzalez.
Bonjour, alors on va jouer avec les morts aujourd'hui et puis ça va être un jeu top super.
Et enfin, elle vient à l'instant de parler dans le micro en qualité de co-présentatrice de l'émission aujourd'hui. Mais elle sera aussi chroniqueuse, donc je la présente maintenant en donnant l'impression que c'est une autre personne que celle qui vient parler pour la première fois, Juliette Arnoux.
Oui.
Et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui alors ?
De l'invité, alors je peux pas en dire beaucoup plus.
Ah d'accord, c'est très intéressant, on a hâte.
Et pour finir, évidemment, celui qui a la musique dans la peau... Fred Fro.
Mais bien sûr, allez, je me tourne enfin vers celle qui va enclencher le disrupteur. Vous grandissez à Port-au-Prince et vous quittez Haïti quelques années pour passer le bac à Paris et suivre des études de lettres à la Sorbonne. Vous retournez vivre en Haïti en 77 pour y enseigner la littérature à l'université de Port-au-Prince. J'espère que c'est vous, oui. Votre premier essai s'intitule « L'exil entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien ». Et votre premier recueil de nouvelles s'appelle « Tantrésia et les dieux ». Parmi vos romans « Bain de lune » Lune et récompensée par le prix Femina en 2014. Vous avez aussi animé une émission culturelle sur Radio Haïti Inter. Vous avez travaillé au cabinet du ministre de la Culture, qui était alors Raoul Peck, et vous êtes membre de l'Institut Pédagogique National. Oh là, ouais. Dites donc, cette classe. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Yannick Lins.
Bah ouais.
Ah, France Inter, Charline Vanunacker.
Oseille là, bam.
Par Jupiter.
Je peux te dire qu'aujourd'hui, le niveau culturel de l'émission sans Guillaume et Alex. Attention, c'est parti. Yannick Lins, bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous publiez votre roman Douce Déroute aux éditions Sabine Vespizer. Oui. On a souvent une seule vision d'Haïti chez nous, souvent très très cliché. Vous combattez cela par la fiction, la littérature. C'est pour ça que vous avez choisi le roman choral. Je vous en parle parce que c'est aussi une question chorale. On a beaucoup réfléchi à cette première question tous ensemble.
C'est vrai.
Pour combattre le cliché sur Haïti, le roman choral était une bonne réponse, c'est-à-dire plusieurs personnages, plusieurs points de vue.
Oui, absolument. Mmh. Puisque les clichés, bon, ça fait deux siècles qu'on traîne des clichés derrière nous, donc on a l'habitude. Et en même temps, les clichés, c'est toujours très négatif. Et il y a tout des pans de choses tellement belles pour, je sais pas moi, 10 maléfices, il y a 1000 beautés, il y a 1000 rires et 1000 autres choses. Mm-hmm. Et voilà, et moi c'est ce qui, j'adore ces miracles au quotidien.
Donc vous choisissez plusieurs personnages, le roman choral et les points de vue. Vous explorez aussi donc tous les milieux, c'est-à-dire le milieu bourgeois. Et c'est vrai qu'avec les clichés que draine Haïti, on ne s'attend pas forcément à plonger dans un roman où il existe un milieu bourgeois, alors que bien sûr qu'il existe. La classe moyenne qui crève la dalle quand même. Mm-hmm. Et puis la délinquance et la pauvreté. C'est là aussi une manière d'explorer, de rendre très nuancée la vie à Port-au-Prince.
Et là, vous avez oublié quelque chose. Ce sont ceux qui aiment la beauté, celles qui chantent.
Mm-hmm, oui.
Et puis, il y a ce jeune aussi qui va faire un petit peu des trucs d'agro-industrie. Ça, on n'en parle pas non plus.
Et les jeunes ambitieux.
Ouais. Et les jeunes ambitieux. Alors là, ceux-là, il y en a partout. Hein. Oui. Mais c'est une manière de présenter Haïti dans plusieurs facettes. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, on n'est pas dans un cliché qui est toujours le même, misérabiliste, pessimiste. Et moi, je veux toujours échapper à ça, mm-hmm, dans mes romans, toujours.
Et chaque milieu, est-ce que chaque milieu apporte une question et un thème ? Par exemple, le milieu de la bourgeoisie parle notamment de la corruption et de l'assassinat présumé d'un juge. Oui.
Tout se tient dans le roman. On voit que dans tous les milieux se tiennent par des liens, peut-être qu'on ne voit pas immédiatement, mais tout se tient.
Ouais, Juliette Arnaud,
jusqu'au dénouement final.
Qu'on ne va pas.
Hein. Ah bah non.
Bah
non,
je
non,
pourrais
non,
le faire, non, mais je ne vais pas
non,
le faire.
Non. Juliette a remarqué quelque chose.
Oui, j'ai remarqué que c'est. Enfin, on a tous remarqué que effectivement, c'est un roman choral, donc ça permet plusieurs voix, mais il y a quand même une prédominance des voix masculines. Or, vous êtes une femme.
Eh bien, c'est la première fois qu'on me dit ça.
Parce que nous sommes des génies. On vous l'avait dit que ça allait être intelligent.
Parce qu'en général, on me dit, oui, vous parlez tout le temps des femmes, etc. Je dis, mais non,
Non, mais c'est pas un reproche.
Je trouve que c'est bien. Bien, parce que les gens me disent, ah oui, brune. Mais je dis, mais il n'y a pas qu'elle, brune, dans le roman. Il y a quand même pas mal d'hommes. Elle est la seule femme.
Elle est la seule femme.
Oui, tout à fait.
Alors pourquoi?
Parce que là, je voulais montrer quelque chose de plus global. Donc forcément, dans la délinquance aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ça va venir, hein. Mm-hmm. L'égalité va aller jusqu'où
là. C'est peut-être comme ça qu'elle
peut se
conquérir.
Une complice. Et puis, pour moi, c'était pas un roman où mettre en lumière sur seulement les femmes. C'était vraiment quelque chose de plus global de la société. On va trouver des femmes plus dans des romans que j'ai fait avant. Mm-hmm. Et là, non. J'y ai même pas pensé. Là.
Moi, je me suis demandé si, comme vous traitez quand même ça, le roman... Le point de départ du roman, c'est une histoire violente. Hein. Oui, c'est un juge qui s'est fait assassiner dans des conditions extrêmement violentes. Mm-hmm. Je me suis demandé si vous n'aviez pas choisi beaucoup de personnages masculins parce que justement, vous traitez d'une histoire extrêmement violente.
Peut-être d'une histoire politique aussi. Parce que les femmes politiques et violentes et les femmes sont un peu en dehors de ces secteurs.
Oui, elles sont à la marge.
Absolument.
De D'accord.
Vous avez parlé de marge tout à l'heure d'ailleurs. Mm-hmm. Elles sont un peu à la marge pour le moment, oui.
Okay. Et parmi tous ces personnages et tous ces points de vue, est-ce qu'il y en a un qui se rapproche le plus du vôtre ? Lequel serait le vôtre ?
Pierre.
Mm-hmm. Forcément. On peut dire deux mots de Pierre, alors, sans dévoiler.
Oui.
Non,
alors moi, Pierre, c'est la génération, peut-être un peu plus âgée que moi, mais qui voit cette jeunesse que je trouve fantastique, formidable à Port-au-Prince, qui occupe les lieux par de la musique, des arts plastiques, du théâtre, tout le temps, et c'est des miracles quotidien. Et lui est un peu nostalgique d'un pays, enfin, ou d'une ville qu'il connaissait avant. Et aujourd'hui, l'énergie de la ville, la vitesse de la ville, ces jeunes qui ont un pied déjà dans l'ailleurs, dans la globalisation, il a un peu perdu. Et moi, je voulais un peu rendre hommage à cette jeunesse que je trouve fantastique en Haïti. S'il y a des miracles quotidiens, c'est grâce à eux. Et ils sont vraiment très doués.
Eh bien, c'est Douce Déroute, une occasion de plonger dans le chaudron, vous appelez ça,
oui,
le chaudron de Port-au-Prince. Oui, il faut essayer de pas tomber dans le fond, mais rattraper l'écume, comme vous
absolument.
Dites.
Absolument.
Douce Déroute, aux éditions Sabine Vespizer. Et oui, c'est Yannick Lahens qui est avec nous, qui vit à Haïti à l'année, hein,
ouais, absolument.
Bien sûr, hein, Port-au-Prince.
Ça existe, parce qu'on m'a posé la question.
Ouais, oui.
Dire, ah bon, vous habitez à Haïti? J'ai dit, pourquoi les gens qui habitent à Haïti sont comment?
Et on va mettre la demi-île, comme vous dites, à l'honneur aujourd'hui dans Par Jupiter. Inter, vous écoutez Par Jupiter et nous recevons aujourd'hui l'auteur, l'écrivaine, la romancière Yannick Lahens qui nous vient d'Haïti avec Douce Déroute paru aux éditions Sabine Vespizer et nous allons en reparler avec Juliette mais autour de la table il y a aussi...
Ah, à part moi ?
Ouais.
Ouais, c'est bien nécessaire. Thomas VDB et Christine Gonzalez.
Et oui, et aujourd'hui, le rédacteur en chef du journal de 17h17 en l'absence d'Alex, c'est Thomas VDB.
À quelle heure va le train ?
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. En moins de 5h15.
Et on commence par les titres.
C'est bien parce que moi d'ailleurs j'adore les titres. Je suis un fou de titres.
Les titres là, il y en a plein.
Il y a la France, internationale, société. Il y a plein de titres qui vont intervenir.
Vous mettez pas les informations dedans, vous?
Les infos. les informations de...
Oh là là, bon, alors est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, il y aura des brèves, alors, mais pas que. Enfin, si, il y aura, bon, il y aura la, évidemment la brève SNCF qui continue. Et c'est vrai que là, c'est pas pour changer de sujet, mais on est pris en otage. Moi, hier, je voulais prendre le 18h45 pour Dourdan la forêt. Je suis arrivé à 19h15, j'étais pas encore arrivé.
Non,
je sais pas si vous rendez compte.
Thomas, Thomas.
On est pris en otage.
Mais vous avez parlé sur le jingle.
Ah oui, non. Ah non, désolé. Mais j'ai pas la. Ça, c'est l'habitude. C'est que moi, ici, habituellement, je chante l'actualité. Je fais l'actualisique, c'est le nom de la chronique que je fais dans cette émission.
Vous avez fini votre numéro de cirque? Là, c'est bon, je veux dire, on peut informer la France
On y va, on est à fond, on est à fond dans l'info, on est parti.
C'est parti. Allez, et on commence avec l'émission politique qui était diffusée hier soir sur France 2.
Sur France 2, l'émission. Hein? Alors, laquelle?
L'émission politique, c'est le nom de l'émission.
C'est le nom. Oh bah, ils sont pas foulés pour le titre, les gars.
Moi, bon, Thomas, je peux continuer parce que
j'aurais pu donner un autre titre. C'est le nom de l'émission, politique. Oui. J'aurais pu appeler 7 sur 7. Ou, il y a plein de titres. Il y a plein de titres. J'ai pas d'idée de titre là.
Oui,
mais
d'accord.
Quand même
c'est quoi? Alors, taisez-vous 30 secondes, juste 30 secondes, s'il vous plaît. Laissez faire les professionnels, puis prenez des notes, surtout pour la prochaine fois. Parce que bon. Donc, hier soir, Raphaël Antoven a posé une question à Jean-Luc Mélenchon en faisant du Raphaël Antoven.
L'homme du Véridire, c'est l'élu qui dit aux électeurs ce qu'il croit vrai, plutôt que ce que les électeurs auraient plaisir à entendre. L'homme du franc-parler, c'est différent. Quand il s'énerve, c'est pour séduire. La colère l'intéresse plus que la vérité. Alors vous-même, Jean-Luc Mélenchon, à quelle catégorie politique vous rattachez-vous? Véridique ou franc-parler?
Et Mélenchon a répondu en faisant du Mélenchon.
Vous êtes obligé un petit peu
c'est
de répondre.
C'est pas une question. La question, c'est est-ce que vous êtes un gros menteur ou juste un énervé?
Passons à l'international.
On passe à l'international tout de suite, qui sont tous les autres pays que la France. Hein, c'est l'Allemagne, c'est l'Amérique.
Oui, Italie donc.
L'Italie, les pétards de la mama.
C'est très bien. Alors l'Italie, où le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord s'apprêtent à gouverner ensemble.
Ouais.
Bah Thomas, c'est à vous là.
Ah oui. Ah oui, non, le mouvement 5 étoiles par rapport aux hôtels.
Sport. Invité sur France Bleu. Concentrez-vous.
Sport tout de suite avec Charline Vanhoenacker.
Concentrez-vous, Thomas. Mais, Michel Platini s'est laissé aller à quelques confidences sur la Coupe du Monde 98.
J'ai fait une petite magouille en faisant aussi que quand on a organisé, il faut organiser le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale.
Bon,
alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles.
Bon, c'est vrai que là je suis assez d'accord quand même. C'est vrai que, bon, on a versé du laxatif dans le jus de pomme à Ronaldo avant le match, mais franchement, si on peut pas faire les petites magouilles, je vois pas quelle est la. Là,
bon,
je suis d'accord avec
vous. Vous savez quoi, Thomas, on va passer au brève là pour finir parce que.
Science tout de suite. Des chercheurs transfèrent la mémoire d'un escargot de mer à un autre.
Wow. Ouais.
Tout scientifique qu'ils sont, j'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à prouver que la mémoire d'un escargot était réussi à aller sur l'autre escargot. Ils n'ont pas dit, tu te souviens de ce qu'il a fait l'autre hier? Enfin, comment ils ont pas.
C'est pas grave, Thomas.
J'aimerais bien qu'ils le prouvent. J'avais pas compris comment ils avaient fait. Autre news d'importance également. Les chemins de fer japonais s'excusent pour un train parti 25 secondes à l'avance. On dirait un peu le résumé de la vie sexuelle d'Alex Vizorek. Et pour ça, je trouve ça intéressant.
Bah, vous voyez comme vous pouvez.
Ça m'a cuit tout ça. Je suis complètement cuit à la fin de ces news. Je vais aller dormir jusqu'à ma chronique. Merci.
C'est dommage, vous êtes chaud quand c'est fini. C'est quand même marrant ça. Dites donc. Voilà, nous avons informé la France. Merci Thomas VDB.
Pardon à tous.
C'était magnifique. Yannick Lin, c'est en notre compagnie et nous allons prendre avec vous des nouvelles d'Haïti. Pour paraphraser une question que vous vous posez tous les jours sur la marche du monde, Yannick Lin, on pourrait dire Haïti, comment va ta douleur? L'île qui connaît tous les cataclysmes est souvent résumée à tous ces clichés misérabilistes dans la couverture médiatique que nous recevons, nous, en Europe notamment. Résultat, quelle vision l'Européen a-t-il de Haïti?
Ce doit être une ville passionnante. Ces vieilles maisons de bois, ces ruelles sordides, où dans des tripots affreusement malfamés les indigènes, ces livrets dont on joue du trombone jusqu'au délire, ce doit être hallucinant, prodigieux, non, hein, quoi, hein, dites, non, hein, quoi, non.
C'est absolument indescriptible de démence géniale. Oh.
Claude Pieplu et Fufu dans Le Gendarme. Alors Yannick Lins, les informations et les images qu'on reçoit, nous, d'Haïti, c'est un sujet qui vous travaille, non? Parce que dans votre roman 12 déroutes, le seul personnage blanc occidental, c'est Francis, reporter. il passe là, il doit essayer de comprendre. Ça veut dire que c'est un questionnement, j'imagine.
Ben forcément, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas analyser ou montrer un pays, donc être dans le local, sans tout de suite mettre au niveau du global. Hein. Je crois que difficilement, mais aujourd'hui, on peut rester dans son petit coin de terre, à l'intérieur de ses frontières, sans voir le monde. D'ailleurs, les jeunes en question naissent un pied dans la globalisation, avec Internet, avec les images, la télé, donc toutes les questions de on va fermer les frontières. Les imaginaires sont déjà hors frontières, donc c'est le plus important.
Alors d'ailleurs, dans les imaginaires, à un moment, vous citez une femme qui n'a jamais trouvé personne pour remplacer Denzel Washington dans son imaginaire. Et vous dites que même Obama ne lui arrive pas à la cheville.
Exact.
Je suis tellement d'accord. Mais vous, plus personnellement, vous-même.
Ah mais forcément, moi je suis, d'abord je voyage souvent, et par la littérature aussi je voyage. Quand on prend un livre écrit par un Chinois, un Argentin ou un Malien, on voyage. Donc moi déjà je suis dans l'universel quoi.
Alors Denzel ou Obama?
Ah! Alors là, c'est un choix cornélien.
C'est un crève-cœur. Hein.
Mais si on devait dire Haïti, aujourd'hui, comment va ta douleur? Qu'est-ce que vous pourriez répondre?
Moi, je trouve que justement, il y a une créativité aujourd'hui, qui a toujours existé d'ailleurs, et qui nous permet de traverser quoi, les malheurs, de traverser la douleur. Et c'est un lieu d'une grande convivialité aussi, d'une grande hospitalité. Et moi, je suis même optimiste. Parce que quand je vais rencontrer les jeunes, je trouve qu'ils sont... ils sont une énergie.
Mais ça, il n'y a jamais, très rarement, un journaliste de chez nous. On n'envoie pas les journalistes pour ça. Traverser l'océan, aller jusqu'en
Haïti. C'est toujours ce qui va mal. Ouais. Et de toute façon, je pense que Haïti, c'est la majorité du monde. La majorité du monde va mal. Hein. Il n'y a pas qu'à Haïti.
Sauf, on peut saluer notamment le travail, il y en a d'autres, hein, mais le travail notamment de Amélie Baron de RFI.
Tout à fait, c'est une copine. Alors, qui vit depuis longtemps là-bas. Si jamais elle écoute, salut Amélie.
On la salue, bien sûr.
Oui, on prendra notre café
et
bientôt.
Et on peut la suivre sur Twitter.
Absolument.
Et au gré de ses pérégrinations, parfois, elle fait des photos et elle poste des très très jolies choses.
Tout à fait.
Et donc, pour sortir de ces clichés, suivez Amélie Baron, qu'on salue. Je vais lire peut-être un petit extrait qui répond à cette question qu'on se pose de votre ouvrage « 12 déroutes ». Donc c'est un Haïtien qui dit au reporter « Plus tu resteras, plus tes scrupules disparaîtront. Ces scrupules sont une bonne initiation, l'humour viendra après. » Et comme s'il ne pouvait s'empêcher de revenir à cette interrogation qu'il taraude, « Et la révolution, Ronnie ?» Mais quelle révolution, Francis? Je ne sais pas, contre la misère, les injustices, contre ce que je vois par la fenêtre de ma chambre. Je ne sais pas. Bon, tu ne sais pas? Eh bien, moi non plus, Francis, d'ailleurs. Commence par la faire chez toi, la révolution, et après, on verra.
C'est donc... j'ai tout dit, là.
Ah oui.
Absolument.
12 déroutes aux éditions Sabine Vespizer. C'est donc Yannick Lahens qui nous accompagne. Et aujourd'hui, il est mis à toutes les sauces. Thomas Vedebay.
C'est toujours moi qui reviens. J'étais co-animateur, je suis chroniqueur désormais aussi. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, la semaine dernière, on a pu découvrir, lors d'un reportage sur TF1, la toute nouvelle statue de cire du musée Grévin, et c'est la statue de Emmanuel Macron. Alors, je le dis, alors c'est vrai, j'avoue tout de suite, c'est pas leur meilleur.
Non.
Hein, c'est pas leur meilleur. Moi, j'y suis déjà allé au musée Grévin, et c'est vrai qu'ils font mieux d'habitude. Hein, mais cette statue, cette poupée, elle a une particularité, c'est que... C'est une poupée qui dit non, 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 non. Surtout particulièrement au cheminot, elle dit non, 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 non. Voilà, je disais, elle est pas très réussie cette statue. Quand on voit la statue d'Emmanuel Macron, on dit ça lui ressemble pas. Et pourtant, il est vraiment figé tout pareil. Il a l'air crispé comme dans la vie, mais au niveau des traits, on voit bien que c'est pas lui. Et ça soulève un point, c'est que c'est vrai que Macron, on sait pas trop le définir en tant que politicien, mais on n'arrive même pas vraiment à savoir à quoi il ressemble niveau être humain non plus, on se dit. C'est vrai qu'il a un physique à peu près aussi flou que son programme pendant la campagne. Ça, c'est incroyable. Il arrive même à brouiller les pistes en ce qui concerne les traits de son visage. Le sculpteur, paraît-il, a fait un burn-out. Il paraît qu'il était cuit, Gepetto. Vraiment, il n'arrivait plus du tout à rien faire. Et il n'y arrivait pas. Parce qu'il faut savoir que dans le reportage qu'ils ont montré sur TF1, on suit vraiment tout le processus de fabrication des statues du musée Grévin. Alors tiens, si par exemple, je sais pas, si comment on fait pour fabriquer la couleur des yeux de Emmanuel Macron, ben je vous le dis, il faut du blanc titane, de l'outremer foncé, du bleu de Prusse, Ouais, je note, hein, notez bien, on dit, du bleu de Prusse, du gris des Ardennes et du vert kaki. Voilà, désormais, vous pouvez reproduire chez vous, à la maison, les yeux de Macron avec des ciseaux, de la ficelle. Ça peut servir au cas où vous auriez, par exemple, petite, je sais pas, envie de les lui arracher. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même bien le musée Grévin, faut quand même dire ça. Alors bon, faudrait, bon, certains diront l'entrée est quand même à 18,50 €, hein, et les mauvaises langues diront c'est plus cher que le Louvre. Oui, d'accord, mais il y a un Romanov au Louvre. Ben non, il n'y a pas de Romanov. Il n'y a pas un Romanov au Louvre. Ils vont dire, oh oui, on a des momies au Louvre. Et alors, eh ben, quoi, au Grévin, ils ont Charles Aznavour. Pardon, mais voilà, je tiens à préciser. Et puis, c'est vrai qu'au musée Grévin, les célébrités, elles sont sympas. Hein, c'est rare quand même qu'il y en ait une qui refuse un selfie. Après, bon, c'est vrai que pour les autographes, c'est plus compliqué. Il faut caler le stylo entre ses doigts et bouger soi-même le carnet. Ben, bon. Mais au moins, les personnalités prennent personne de haut. Mais comment avoir sa statue au musée Grévin, me direz-vous. Alors ça, désolé, mais c'est l'Académie Grévin qui décide. C'est vraiment, l'Académie Grévin, c'est une sorte de brigade d'élite de la cire. C'est vraiment un groupe d'intervention spécialisé dans la cire, un peu comme les GIGN, sauf qu'au lieu d'intervenir dans les attentats, ils interviennent que dans des réunions pour dire qui aura sa prochaine statue en cire au musée Grévin. C'est un comité qui est présidé par Stéphane Bern. Et par exemple, il y a des statues, il y a des personnalités qui n'auront jamais leur statue. Hein, par exemple, les frères Bogdanov, parce qu'on s'est rendu compte que même si on fait une statue de cire des frères Bogdanov, les frères Bogdanov continueront de ressembler plus à la statue que la statue de cire. Donc, je vous ai dit, c'est même peut-être pas la peine d'en faire une, vraiment. Après, j'ai entendu qu'il y a des fabrications de certaines statues pour lesquelles ils trichent un petit peu. Par exemple, pour celle de Michel Houellebecq, je peux vous dire, ils sont pas embêtés. Ils ont juste pris la statue d'un orque du Seigneur des Anneaux et ils ont juste un peu rajouté des cernes. Et ça fait Michel Houellebecq. C'est vraiment étonnant. Ça fait Michel Houellebecq. Mais je rappelle que le musée Grévin appartient quand même à un groupe privé qui possède déjà le Futuroscope. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les progrès technologiques, eh ben, on va pouvoir faire des expérience futuristique hors norme. Je ne sais pas si vous imaginez le potentiel d'une fusion Futuroscope Musée Grévin. On va pouvoir faire des expériences. Ça va être du délire. On va pouvoir prendre la statue de Giscard et lui mettre la voix de Chirac. Je ne sais pas si ça arrive devant Giscard, il a écrotté de caniche. Qu'est-ce que c'est? Et tout ça en cinéma dynamique. Je ne sais pas si quand même vous rendez compte. D'ailleurs, eh ben, avec les années, quand même, le musée s'est vraiment amélioré dans la qualité de ses statues. Je peux vous dire qu'à la fin du reportage, la responsable du musée sort d'un carton la tête d'Isabelle Adjani. Oh, je peux vous dire, c'est une des premières statues du musée. Et ben, on sent vraiment qu'à l'époque, les mecs s'appliquaient moins. On sentait vraiment que c'était moins important pour eux. Vous vous souvenez des mannequins dans les vitrines prisoniques? Mm-hmm. C'est pareil, c'était vraiment le même. Hein, mais un mannequin vraiment qu'on aurait laissé traîner sur l'autoroute pendant des années. Et d'ailleurs, c'est quand j'ai vu cette image que je me suis dit, eh ben, qu'a vieilli, c'est plutôt bien, Isabelle Adjani. Merci à tous.
Merci Thomas VDB. Et en ce moment, j'ai rêvé, on peut vous voir au théâtre du Rond-Point.
Ce soir et demain encore, oh, exactement, au théâtre du Rond-Point pour mon spectacle Bon Chien Chien.
Et voilà, merci Thomas VDB. C'est Yannick Lins qui est dans notre compagnie jusqu'à 18h. Et tiens, vous avez tellement bien travaillé Thomas VDB, on vous offre Franz Ferdinand.
Wow.
Ah, je sais que vous aimez, allez en profiter. Never getting up in time. I enjoy being a lazy boy, lying in your bed, thinking of how a lazy boy loves you. We'll be right back. Lazy Boy, un extrait du dernier album de Franz Ferdinand pour faire kiffer Thomas VDB et Juliette et Christine Gonzalez aussi, vous aimez?
Ouais.
Ouais. Ah bah voilà. Tout le monde est content. J'espère que chez vous aussi, hein, parce que quand même, c'est service public. Donc on essaie de faire
c'est
plaisir
gratos,
aux gens.
C'est gratos,
exactement.
En plus, on
et c'est l'auteur Yannick Lahens qui est en notre compagnie aujourd'hui, qui publie Douce Déroute aux éditions Sabine Vespizer. On va y revenir dans quelques instants avec Juliette Arnaud. Mais d'abord, elle nous vient de Suisse. Oh là là, la francophonie est autour de cette table, c'est magnifique. C'est Christine Gonzalez.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Question pour un champion mort. Avec nous ce soir, quatre intellectuels. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes et quatrième candidat qui remet sa place en jeu. C'est le plus fort des intellectuels de l'au-delà. Il s'agit de Claude François. Claude François, est-ce que vous croyez en une nouvelle victoire?
Oui, oui. Mais vraiment à 100%, sinon je ne le ferai pas.
Roland Barthes, bonsoir à vous. Vous connaissez vos concurrents?
Oui.
Qui redoutez-vous le plus?
C'est Sartre.
Sartre, et pas Simone de Beauvoir.
Oh.
Mais vous la connaissez?
Je la pratique.
Je vois. Pas trop jaloux, Jean-Paul Sartre?
Il peut se la faire.
Voilà. Les présentations sont faites et que débute Question pour un champion. Les trois premiers qui donneront une bonne réponse seront qualifiés pour la suite. Allez, on se concentre. Première question, qu'est-ce qui rime avec électrocution désagréable? Claude François?
Lamentable.
Lamentable, excellente réponse. Bravo. Question suivante, dans quel pays maltraite-t-on les vieux, les pauvres et les mourantes au téléphone?
En France.
Attention Simone, il faut appuyer sur le buzzer.
En France.
Bravo Jean-Paul Sartre. Ouais. Petit mérite, mais mérite quand même. En course toujours, Roland Barthes et Simone de Beauvoir. Et cette question, à quand remonte la dernière semaine sans grève dans le pays? Roland Barthes? Temps écoulé, désolé. Simone de Beauvoir?
Ça remonte à la nuit des temps.
Excellente réponse, ça remonte à la nuit des temps. Bravo Simone. Roland Barthes, c'est terminé pour vous, mais vous ne partez pas les mains vides.
Roland, vous remportez l'édition 2019 du Petit Robert avec le mot « frotteur » dedans. Merci de votre participation.
Le prochain qui répond à cette question passe directement en finale. Une question juridique. Est-ce que la loi interdit, oui ou non, à un chanteur, admettons un chanteur blond des années 60, de coucher avec des jeunes filles mineures? Claude François?
Oui, je crois que c'est malheureusement la loi.
Excellente réponse. C'est la loi. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, il ne reste plus qu'une seule place en finale, vous y croyez Jean-Paul?
Totalement.
Question, à quel moment de la journée l'équipe de Par Jupiter est-elle la plus productive? Jean-Paul?
C'est difficile à dire.
Vous perdez la main? Simone de Beauvoir?
La pause du repas de midi.
La pause du repas de midi, c'est juste.
C'est vrai en plus.
C'est vrai. Jean-Paul Sartre, c'est terminé pour vous, mais vous repartez avec ce magnifique cadeau.
Jean-Paul, vous remportez l'encyclopédie 2018 Francis Bach avec les mots Startup Nation, disruptif et croquignolesque. Merci de votre participation.
La grande finale de Question pour un champion mort oppose Simone de Beauvoir à Claude François. C'est le grand face-à-face. Je suis top, je suis un nom féminin qui qualifie essentiellement une femme. Claude François?
L'angoisse.
Non, on passe la main à Simone de Beauvoir qui qualifie essentiellement une femme mal considérée. Oui.
Féministe.
Non. Top. Mal considérée, voire méprisée par la société. Oui, Claude, je suis
fragile.
Non, je ne suis pas fragile. Top. Certains hommes me définissent ainsi lorsqu'ils n'obtiennent rien de moi. Je suis, selon une récente étude, l'insulte la plus fréquente adressée aux femmes, bien avant pute, connasse et vieille. Je suis une. Simone, je suis une.
Salope.
Je suis une salope. Bravo. Bravo, Simone. Ah, c'était pas facile à trouver, hein, ça, c'est... Hein.
Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus.
Ouais.
Salope comme toutes les bonnes femmes. Ou hystérique comme toutes les bonnes femmes.
Enfin, voilà, ça suffit. Voilà. On a compris. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Simone, vous avez gagné. Bravo, magnifique. À la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi Question pour un champion mort. Merci Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Belle soirée à toutes et à tous.
C'est sidérant. Merci Christine Gonzalez. Toujours plus loin, toujours plus haut avec Christine. Alors, on rappelle que tout ça est réalisé en direct. C'est ça qui est dingue. C'est avec les archives de Lina, c'était les vraies voix.
Qui sont tous passés plus ou moins chez Radioscopie.
Exactement, incroyable. Et merci beaucoup à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation et à Pierre Faucillon à la technique, qui en plus, c'est la première fois qu'il est à la technique pour notre émission. Je vois les gouttes qui perlent sur son front. Tiens bon, Pierre, reste avec nous. On va continuer, merci Christine, avec Yannick Lahens, notre invité, auteur qui nous vient d'Haïti. Car il est temps de déchiantiser la critique littéraire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de s'adresser au lecteur, en privilégiant par exemple l'angle du plaisir? C'est ce qu'essaye de faire Ernest, qui est un magazine littéraire en ligne. Ça pourrait par exemple permettre d'élargir le lectorat. Et qui sait, peut-être, on pourrait rêver, ça aurait pu conduire Johnny Hallyday à lire, dans le fond.
Quand je m'ennuie seul dans mon lit, je lis. Quand même les rêves me fuient, je lis.
Johnny Hallyday chante « Je lis », un titre de l'album Hamlet sorti en 76. Et merci à Marion Lelay, notre attachée de production, qui a trouvé cette pépite. On voit qu'elle a travaillé avec Patrick Cohen pendant des années. Marion. Alors, c'est un article paru dans L'Humanité, sur donc ce magazine littéraire sur Internet qui s'appelle Ernest, donc en référence à Ernest Hemingway, et qui aborde la critique littéraire de façon plus accessible, l'angle du plaisir. Juliette, vous aviez une question, d'ailleurs, avec un petit parallèle avec Cannes, si je me souviens.
Oui, puisque hier, un de nos chroniqueurs, Thomas Bideguin, nous faisait remarquer que, donc, à cette époque de Cannes, on célébrait des films que personne, en gros, ne comprend, que personne ne va voir, et que, néanmoins, c'est très, très important. Voilà. Est-ce que, pour les livres, il vous semble que c'est la même chose? Est-ce que les critiques littéraires font souvent des critiques de livres qui ne concernent que des gens qui sont particulièrement capés, qui sont...
C'est sûr. Absolument sûr de ça, oui. Il y a des critiques, en fait, c'est pas autour du livre lui-même, c'est autour de la personne, de l'aura, de la réputation qu'a la personne, mais pas autour du plaisir que quelqu'un a eu à lire le livre. Le plaisir passe en second plan.
Et est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez quand même, ou vous lisez des critiques qui parlent de ça, du plaisir? Parce que...
Il y en a quand même quelques-uns qui parlent du plaisir, et là, quand on sent que la personne a eu plaisir à lire le livre, on a beaucoup plus envie de l'acheter qu'une démonstration intellectuelle sur la manière dont c'est construit, tout ça. Non, c'est beaucoup moins intéressant que quelqu'un qui a aimé un livre et puis qui donne envie de lire. Parce qu'il y a de la gourmandise dans les mots. Voilà, et le plaisir aussi, absolument.
Une occasion aussi de parler de cette initiative en Haïti qui s'appelle Livre en Folie, qui est en fait le salon du livre, du livre là-bas. Il revêt une importance particulière et on déteste ce mot, mais on dit qu'on peut consommer de la lecture, c'est-à-dire quand on fait l'acte d'achat d'un livre. Voilà. Et là, ça se passe différemment.
Voilà justement un événement dont on ne parle pas en France, mais c'est une initiative haïtienne. Ce jour-là, il y a une banque qui prend en charge 40% du prix des livres. C'est annoncé 3 semaines avant, il y a la liste de livres qui sont disponibles, et c'est vraiment la folie de l'achat des livres.
C'est-à-dire c'est le pot de Nutella en Haïti.
Les gens vont et font leur emplette de l'année, parce qu'ils savent qu'ils ne payent que 60%. Alors commencé, ça, ils en sont à leur peut-être 15e édition.
Ouais. Là ça commence le 31 mai.
Voilà. Ouais. Et voilà, il me dit, comment tu ne rentres pas pour Livre en Folie, tu seras encore à Paris? Je dis, écoutez, oui. Et ils avaient fait ça sur une journée, et maintenant ils sont obligés de le faire sur 2 jours, 3 jours, parce que ça n'arrête pas.
Ouais. C'est-à-dire, alors il y a quand même quelques librairies, bien sûr, en Haïti, mais là c'est vraiment, on a la liste des bouquins qu'on veut acheter, on paye 60%, donc c'est les banques qui offrent, une banque privée.
Mais qui a lancé cette initiative, et puis ça tient. Et les gens, mais c'est de la folie ce jour-là, c'est comme, je sais pas moi...
Ah c'est vrai, c'est la bousculade.
Et les soldes.
C'est les soldes.
Hein.
Donc les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, justement, profitent de ce jour-là pour aller sur place. Maintenant, il y avait une telle affluence, ils ont dû mettre les ventes en ligne pour que les gens ne viennent pas, mais il y en a beaucoup qui continuent à aller, beaucoup de jeunes aussi.
Christine Gonzalez, vous aviez une question sur un peu qui sont vos alliés.
Oui, qui sont vos relais à vous?
en Haïti.
Oui.
Ah, mais d'abord, je dois vous dire qu'il y a tellement d'initiatives que je dis aux jeunes, je n'ai plus votre âge, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Les relais, c'est des petites bibliothèques de quartier qui se montent. On ne sait où, dans des lieux absolument improbables. Par exemple, la Cité Soleil, qui est le plus grand bidonville.
Ouais.
Là, ils viennent de lancer leur première bibliothèque. Sans l'aide de l'État, sans l'aide des ONG. À chaque fois que l'État ou les ONG ont essayé, ça n'a pas marché. La population, elle est jeune. Donc les gens ont donné un euro, il y en a qui en ont donné 2 euros. Il y a des gens qui ont des moyens. Donc ils en sont à 10 000 livres et ils vont avoir leur première bibliothèque. Le bidonville le plus grand de Port-au-Prince. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des miracles qui voient. On est content quand on va là, de voir ça.
Et oui. Et donc, rappelons aussi, tiens, donc ce magazine en ligne qui s'appelle Ernest, ernestmac.fr. C'est un article qui était paru dans L'Humanité cette semaine. Allez jeter un œil si vous êtes curieux sur cette manière, l'angle du plaisir et déchiantiser la critique littéraire. Donc, et pourtant, elle, c'est ce qu'elle fait tous les jours depuis quelques années chez nous, déchiantiser la chronique littéraire. C'est vous, dites donc, c'est Juliette Arnaud.
C'est fou ça, hein. Allez, on va commencer en musique.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir.
Une île, c'est fou ce que ça nourrit comme fantasme. Alors que je suis navrée, hein, mais si on est un peu attentif, c'est jamais qu'un concept géographique, hein, une île, parmi d'autres. Mais bizarrement, c'est bien plus porteur de fantasmes que d'autres termes géographiques. Plus que bassin hydrographique, par exemple. Beaucoup plus fantasmagorique que cratère météorique, au hasard. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. L'idée de l'île, donc, archi importante en littérature, qui nous occupe la tête depuis qu'on est môme. Alors, l'île déserte, bien sûr, hein, on n'a pas attendu Lost, nous autres, merci bien. On a eu Sa Majesté des Mouches, William Golding. Alors, ça commence pareil que Lost, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, accident d'avion, des survivants. Mais c'est que des mômes. Et il y a un des mômes qui dit « Cette île est à nous, on s'amusera tant que les grandes personnes ne seront pas venues nous chercher. » Ouais, on se dit « Yippee-ki-yay, motherfucker !» Et puis non, la vie en collectivité, c'est rude, surtout quand on est surnommé porcinet, qu'on est myope, intelligent et en surpoids. Bref, à la fin, les grandes personnes arrivent, mais c'est trop tard, le drame est survenu. Ensuite, à l'adolescence, on a eu une autre île en littérature, une habitée, celle de la terrible Columba. Mon frère... Tu vengeras ton père. Bon, le frère, il vient de vivre en Europe, donc il est clairement tiède sur le projet de meurtre. Hein. Mais Columba veille au grain et elle aura son bain de sang. Une île, donc, dont on a beau se tirer pour aller voir comment ça se danse ailleurs, mais qui finit toujours par vous rattraper. Bref, moi, en tant que lectrice, j'étais mûre, avertie, somme toute, pour cette autre île. La vôtre, Yannick Lins. Haïti. Alors Haïti, c'est pas n'importe quelle île. Hein. Déjà dès le départ, elle est scindée en deux. Au départ, elle s'appelait Hispaniola. Et depuis 1804, il y a Haïti, première république noire et née d'une révolte d'esclaves. Et Saint-Domingue de l'autre côté. Hispaniola n'existe plus. Alors je sais bien, on a vu l'Allemagne réunifiée. Je sais bien, on a vu Kim Jong-un saluer Moon Jae-in, certes. Oui. Mais de la même manière qu'on n'a jamais vu, jamais on ne verra la famille Tortue courir après les rats, c'est pas demain que les occidentaux fanatiques de Punta Cana et ses buffets all-inclusive feront un crochet pour les plages de Port-au-Prince. Et pourtant, en lisant Douce des routes, je me suis dit, ouais, mais moi de toute façon, les buffets all-inclusive, ça me fait Jean-Paul Sartre, la nausée. Dans ce roman choral, j'étais dans les pompes du blanc, Francis, le journaliste, celui qui découvre, celui à qui on dit, à qui Ronnie dit, qu'il a beaucoup à voir, à rencontrer, à sentir et à ne pas comprendre. Et là, j'ai songé que c'était une fine idée de, face à l'inconnu, commencer par s'en tenir à ne pas comprendre. Hein, remiser mes images de Duvalier, de ses tontons macoutes, du séisme de 2010, vous lire juste et encaisser comme ça peut les mots suivants. Et je vous cite, « L'île a commencé à se déglinguer entre leurs mains, pièce après pièce, comme une voiture abandonnée au bord de la route. Chacun s'est servi au gré de ses besoins, de ses envies, de la voiture. Il ne reste plus qu'une carcasse éventrée. » Bah, bizarrement, j'avais plus envie de la carcasse éventrée que du buffet all-inclusive. Haïti, où une génération a chassé les miliciens pour avoir des mafieux de tout poil, parfois même habillés en avocat, en député ou en sénateur. Personnage qui dit « Ici, rien ne se donne, mais tout se prend, et on prend jusqu'à l'os, et une fois l'os percé, on suce la moelle. » Eh bien, même cette image me tenait plus que n'importe quelle vision de Transat. L'idée de l'île abandonnée par tous ou presque, prise par tous ou presque, et qui pourtant garde intact son pouvoir d'attraction formidable. Merci, bisous, merci.
Ah, merci. Voilà une critique qui donne envie de lire.
Ah.
Voilà.
Vous déchiantisez vraiment.
C'est voilà, exactement.
Merci Juliette Arnaud. Donc, D'où se déroute, édition Sabine Vespizer. C'est Yannick Lahens. Haïti qui est aussi le plus petit territoire avec la plus grande concentration d'auteurs, non ? On raconte souvent, c'est un
paradoxe,
cliché.
Oui. Ouais. Non, c'est pas du tout. Depuis le 19e siècle, on écrit, on a des revues, on a des salles de théâtre et tout ça.
Ouais. Il y a une explication.
On sommes un des premiers pays francophones après la France. C'est quand même fin 18e.
Ouais, oui, bien sûr.
Depuis ce moment-là, il y a des écrivains. Donc, ce n'est pas une génération spontanée, c'est pas né comme ça, non.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de premiers de la classe ? C'est le sujet qu'on avait prévu, qu'on aura assez peu de temps.
Oui, comme partout. Et puis, on ne les aime pas non plus. Comme
c'est
partout.
Vrai ?
Ah, bah oui. C'est
un humain,
article. Ça.
C'est un article humain. De
Mais même vous, en tant qu'enseignante ?
Moi, j'enseigne à des grands, donc c'est pas pareil.
Mais il y a quand même des premiers de la classe.
Ah, bah oui.
Mais à l'université, c'est différent, les premiers
c'est
de la classe,
peu.
Non ?
Oui, c'est un peu. C'est pas aussi terrible quand on est gamin et qu'il y a celui qui a toujours les bonnes notes, celui qui a toujours celle qui a toujours les bonnes notes. Ouh là là.
Ouais. Non, mais
on
c'est
aime
ça.
Pas.
C'est, on aime
c'est
pas.
Humain.
Ouais. Je sais pas, j'étais celle-là.
C'est un article.
Non, mais maintenant, on vous aime.
À lire sur
on s'est rattrapé, on vous aime maintenant.
Slate.fr qui dit « Pourquoi déteste-t-on ?» Ils font une série sur les déteste-t-on. Pourquoi déteste-t-on les premiers de la classe ? Lisez-le si vous voulez, c'est un article sérieux et assez fouillé. Il vient d'entrer dans ce studio, présentez-le nous et présentez-le à Yannick Lahens, Juliette.
Alors, il est beau, il a une guitare.
Quelle beauté.
C'est vraiment une équipe de toute beauté. Il s'appelle Fred Fro. Mais...
Eh bien, bonsoir. Suite au rapport Oxfam sur les profits du CAC 40, je pose la question suivante. Qu'attendent les pauvres pour devenir actionnaires ? Le petit bonhomme en bourse qui se gave de dividendes tout en se tournant les pouces. Le gagnant, c'est celui qui glande. Le petit bonhomme en bourse pour y gâter par le CAC 40. Entendez-vous l'actionnaire qui glousse quand les nouvelles sont excellentes. Vinci est à la hausse. Idem pour Atos, plus 8% pour Total, plus 9% pour L'Oréal. Vivendi décolle, Sanofi s'envole, et même quand ça va mal, Paris c'est le capital. Petit salarié, qu'est-ce que tu crois ? La priorité n'est jamais pour toi. Le petit bonhomme en bourse, quand il se rend chez le pâtissier, remplit-il son sac de courses exclusivement de financiers? Car le petit bonhomme en bourse, son ami à lui c'est la finance. L'entendez-vous qui se trémousse quand Antoine Verlin se lance? Savez-vous que la bourse de Paris est au plus haut depuis 10 ans? Youhou, c'est la fête! Attention, c'est le moment clé du... Allez, allez, Bouygues, allez, Air Liquide, allez, allez, Engie, les sous-sous par ici, allez, LVMH, Lafarge s'arrache, ArcelorMittal, licencié 100 balles pour le petit bonhomme en bourse. Ce sont les bénéfices coûte que coûte, les employés que l'on détrousse, n'ont même pas le bénéfice du doute si le petit bonhomme en bourse pouvait être un peu partageur. Je l'entends, hélas, qui tousse. L'argent ne fait pas le donneur.
Bravo Frédéric Fromet,
tout
merci.
Tout ça pour jouer un morceau de kazoo.
Oui, c'est ça, le petit instrument, c'est le kazoo que vous aviez pris.
Le kazoo, ouais.
et que vous avez craché à un moment parce qu'il a fallu récupérer la guitare, bien sûr. Merci Frédéric Fromet. Merci. Vous jouez ce week-end en Gironde, il paraît.
Oui, en Gironde, samedi au Haillan et dimanche à Soulac-sur-Mer.
Oh là là, dites donc, on est une équipe voyageuse. C'est pour ça qu'Alex et Guillaume n'étaient pas aujourd'hui avec nous. C'est parce qu'ils jouent, bien sûr. Ils sont en tournée internationale dans toute la France. Heureusement, merci Thomas VDB. C'était bien ce petit journal, ça
mais
vous donnait le goût de l'information.
Ah, j'ai envie de faire de l'info maintenant. Moi, je suis un fou d'info. vous savez, je suis un fou d'info.
On l'a bien senti.
Merci Christine Gonzalez, merci beaucoup Juliette Arnaud, et merci beaucoup Yannick Lahens d'avoir passé cette heure avec nous. On était ravis de parler d'Haïti, d'en parler aussi de manière positive. Et on salue tous nos auditeurs qui nous écoutent là-bas. On espère qu'ils sont nombreux, et bien sûr. Je rappelle votre roman « D'où se déroute » aux éditions Sabine Vespizer. Et merci beaucoup à toute notre équipe, à Marion Lelay, Sarah Masson, Nathalie Romero à la préparation assistée de Mathias Volant. Merci à Antoine Asdé pour les blagounettes et l'éditorial. Merci à Djoubaka à la programmation musicale. Et donc Pierre Faucillon à la technique. À lundi les amis, voici le mot de la fin, l'hommage rendu par Johnny à la littérature.